Je veux bien, qui est Destouche, un de mes externes. Il veut faire sa thèse sur votre sang Meloué, il a déjà fait des recherches. Mon sem Meloué, remarqua Augustin qui leva le sourcil. On dirait que je lui parle de porcelaine de Hongrie. Avec plaisir, répondit-il. La surveillante venait en sens inverse, le bas de sa robe brune dépassant du tablier blanc, frôlant le sol poussiéreux. « Le patron veut vous voir, monsieur, » dit-elle à Pierre. Celui-ci haussa les épaules. C'était l'heure de la confrontation hebdomadaire. Déjà Lacombe s'enfuyait vers la bibliothèque. Alcossé son maître, Augustin tenait à lui malgré tout. Presque autant qu'à son père et désormais au vieux Bussy. Il était dans sa vie comme une divinité un peu étrange, devenue familière. Elle lui rappelait ses enthousiasmes d'interne et de chef de clinique et aussi d'autres étonnements. Augustin ne parlait pas de femme, ni avec son père ni avec ses amis. Klein restait chaste. Lui-même employait les moyens ordinaires. Alcossé n'hésitait pas à raconter ses aventures passées en termes charmants. « J'ai habité près de Saint-Germain-de-Charonne, au bon temps. » Nous étions quelques-uns, un autre cubain comme moi, deux mexicains. Des écuyères du cirque Falcon venaient nous voir dans un petit appartement, et nous les enfilions sur le canapé. Et pour rien car c'était de bonne nature. Quand je les voyais le lendemain, au cirque, saluant les spectateurs en minaudant, je riais en pensant au canapé. Joaquin Alcossé se tenait debout, bombant le torse sous le veston d'intérieur. Il mettait de la coquetterie à ne jamais s'asseoir, fût-ce dans un salon, laissant voir à ce trait qu'il vivait d'une vie différente, plus forte, plus nerveuse que les autres, qu'il allait au cœur de la vie quand les mortels ordinaires s'attardent sur ses frontières. Il était rare qu'on le vît derrière son bureau. Parfois, en pleine journée, il s'affalait sur un vieux divan qu'un paravent oriental dérobait à la vue, et en une demi-heure, il se remettait des fatigues de la nuit, car il ne dormait pas plus qu'il ne s'asseyait. Était-ce par réaction aux mœurs de son île, Joaquin Alcossé était né à Cuba vers le milieu du siècle. Fils d'un Espagnol de Sagua la Grande et d'une jeune fille de la meilleure société, il aurait pu prétendre au premier rôle sous les tropiques. Mais sous les tropiques, il n'y a rien que la forêt et les premiers rôles, alors comment se distinguer? Il lui fallait les chocs, l'âpreté d'une concurrence soutenue, celle qu'on trouve dans les vieux pays regorgeant de talents énervés. Il quitta son père et sa mère, les perroquets dans leurs cages ouvragées, les églises d'architecture jésuite qui se défont avec le temps et l'air incertain des confins du monde. Il vint à Paris, un peu timide, un peu gauche, mais brûlant d'en découdre, et ne laissant jamais oublier qu'il descendait des conquistadors, c'est-à-dire des durs paysans de la Castille ou des Asturies. Comme il lui fallait tout connaître, il se plongea d'abord dans les plaisirs, il fréquenta le foyer de l'opéra, les salons à la mode et les maisons de banque. Les Mexicains de toutes sortes étaient populaires à Paris. Puis, ayant dissipé l'essentiel de sa fortune, et lassé d'être confondu par les grisettes et les marquises avec les marchands de guano, il se précipita dans la chirurgie, commençant une grande carrière. Il mit à s'instruire l'âpreté des jeunes gens qui ont, selon le mot des vieillards, vécu. Jeune agrégé d'anatomie, sa tournée d'inspection dans les salles de dissection finie et les élèves dispersés, il restait seul, assis sur un haut tabouret, le regard fixé sur les viscères abdominaux d'un sujet, les soulevant parfois d'une longue pince, réfléchissant, analysant. De cette étrange manière de travailler, qui laissait ses collègues perplexes, on devait voir plus tard les fruits dans sa façon d'opérer. Élève de Dieulvolt, il devint l'agrégé de ce maître célèbre, qui préconisait l'opération systématique et recherchait plus que tout la rapidité d'exécution. Dans ce combat contre les chirurgiens temporisateurs, ce qui attendent, disait Dieulvolt, le refroidissement final, Alcossé fut un précieux second. Sitôt le patient disposé sur la table, il se lançait avec une exactitude brutale, foudroyant, épuisant les aides et les infirmières, taillant comme si le chloroforme n'existait pas. « J'opère avant le choc », disait-il. Confiant dans sa force musculaire, dans les capacités de tout son corps tendu à l'extrême pour gagner quelques minutes, Il dédaignait le plus souvent les instruments lourds, le cerneux de Deuzot, le tourniquet à boule de Mayor, l'écraseur de Maisonneuve. Et Dieulvolt, qui était né à Figeac, regrettait seulement que ce garçon ne fût pas français. Alcossé ne devint pas français, mais Mademoiselle Dieulvolt devint cubaine. La voie des honneurs s'ouvrait à l'Américain en exil. Il succéda au vieux maître et fut élu à l'Académie de médecine. Il se surpassa, s'attachant à perfectionner sa propre technique et à doter la chirurgie des nouveaux instruments qu'elle demandait. Brutal, il faisait irruption dans les salles, arrachant les malades à ses assistants et procédant lui-même « Vous êtes un âne, mon vieux, plus vite il va crever ». Il prononçait « crever » mais personne ne songeait à rire, parce que son habileté impressionnait et que la chance lui souriait toujours. Il ne se préoccupait d'ailleurs pas de former des disciples. C'était un enseignant médiocre, confus le plus souvent, et qui s'exprimait par interjection. Aussi bien ses collaborateurs jugés fainéants ou incapables étaient-ils rapidement renouvelés. Seul Augustin Pierre, si calme, si efficace, lui en imposait un peu. Devant Augustin seul, il se laissait aller. Il évoquait quelques souvenirs. À certains moments, il ressemblait à un cheval fourbu. Vers le soir surtout, quand certains gestes trahissaient une immense lassitude, il ne s'intéressait pas aux malades. Il ne prononçait jamais une parole de compassion, un encouragement. Il n'avait ni la rudesse de la pitié, ni la plaisanterie facile qui permet d'oublier un moment la misère. Il était froid et seulement froid. Il avait partagé, avec l'âne longue, l'honneur d'être appelé en consultation au chevet de Gambetta, et comme son confrère avait porté un diagnostic exact, malheureusement récusé par Charcot et ses amis, d'où la mort de l'illustre patient. De cette erreur, dont l'âne longue avait conçu de l'amertume, à cause précisément de Gambetta, Alcossé n'avait retiré que l'occasion de tourner en dérision des maîtres reconnus. Gambetta lui était indifférent.